le contrôle des circonstances, le croyant qui aspire à être utilisé par le Seigneur pour commencer une assemblée locale quelque part ne doit pas seulement prier au sujet de l'œuvre et du fruit qu'elle produira. Il doit aussi contrôler les circonstances qui le concernent. Prenons l'exemple d'un fonctionnaire à qui le Seigneur n'a pas spécialement demandé de démissionner de son emploi, alors que cet emploi est le moyen de gagner son pain. Il ne devrait pas dire qu'il laisse au Seigneur le soin de son affectation et prendre pour acquis que partout où il sera envoyé, ce sera l'endroit choisi par le Seigneur. C'est là une manière de penser très enfantine. Ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. S'il n'y avait pas l'ennemi avec ses plans et ses désirs de frustrer les plans de Dieu, une telle manière de penser serait, page 152, acceptable. Cependant, le croyant est un soldat en plein combat. Dieu a sa volonté parfaite. L'ennemi a aussi sa volonté et il ne peut accomplir sa volonté qu'en détournant la volonté de Dieu. Il agit délibérément et avec ardeur pour détruire les plans de Dieu. On ne doit pas le laisser progresser. Le croyant qui travaille quelque part doit prier pour que s'accomplissent pleinement les plans du Seigneur concernant le temps qu'il doit passer dans cet endroit. Dans la prière, il doit détruire les plans du diable qui aboutiraient à un changement d'affectation prématuré ou à une affectation qui surviendrait après le temps voulu par Dieu. Il doit combattre dans la prière pour que Dieu ait la haute main sur son affectation et que celle-ci soit effectuée en son temps parfait. Il doit aussi, de la même façon, contrôler les circonstances concernant l'endroit où il devra être affecté quand le temps de Dieu pour son affectation sera venu. Il ne doit avoir aucune préférence, à moins que Dieu lui ait révélé qu'il veut l'envoyer à un endroit précis. Si Dieu a fait une telle révélation dans un rêve, ou une vision, ou par un ange, ou par n'importe quel autre moyen, alors le départ pour cet endroit n'est plus une affaire de choix. C'est une obligation. Il doit maintenant prier et persévérer dans la prière. Il doit déclarer la guerre à toute interférence possible des forces des ténèbres et insister pour que le Seigneur travaille dans le cœur du responsable des affectations afin que celui-ci l'envoie à l'endroit choisi par Dieu. Il doit travailler dur dans la prière et seulement dans la prière. Il ne doit pas envoyer un autre croyant pour aller intervenir auprès de quelqu'un car il détournerait alors les plans de Dieu. Si tu ne peux pas avoir confiance en Dieu pour inspirer le responsable des affectations, pour t'envoyer au lieu qu'il a choisi, comment peux-tu lui faire confiance pour amener à Christ les hommes et les femmes de cet endroit et les faire grandir? Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu dans le domaine matériel, comment peux-tu lui faire confiance dans le domaine spirituel? Réfléchis-y et décide-toi. Nous avons déjà dit qu'à moins que le Seigneur ne t'ait révélé qu'il va t'envoyer dans un endroit particulier, tu ne dois pas avoir de préférence. Dieu ne guidera pas une personne qui a des idées préconçues et qui s'est déjà fixé un endroit où aller. Cette personne, page 153, veut que Dieu fasse sa volonté, la volonté de l'homme en l'y envoyant. Si tu veux réellement être dirigé par le Seigneur, tu dois débarrasser ton cœur de toute préférence concernant les avantages possibles d'un endroit par rapport à un autre. Tu as fait de Dieu celui qui pourvoit à tes besoins. Y a-t-il un lieu sur terre où il ne puisse pourvoir à tes besoins? La vie pourrait être moins chère dans certains endroits que dans d'autres, mais tu as été délivré du système mondain des gains et des pertes. Tu as abandonné tout désir de l'argent, tout amour de l'argent, tout labeur pour l'argent, et, depuis cela, les gains ou les pertes d'argent n'ont plus de prise sur toi? Certains endroits pourraient être plus confortables pour toi, mais la croix de Christ t'a libéré de toute convoitise mondaine, de tout amour mondain et de toute inclination régionale, provinciale, nationale, raciale, etc., et tu es prêt à aller partout où le Seigneur t'enverra. De cette manière, le Seigneur aura le dernier mot et t'enverra à l'endroit de son choix. Cependant, tu dois lui présenter sérieusement le problème et détruire tous les plans perturbateurs de l'ennemi. Les étudiants dans les écoles professionnelles et dans les universités doivent commencer à faire la même chose à propos de leur affectation au moment de leur sortie. Le Seigneur n'agira pas pour protéger ceux qui sont passifs. La passivité sert les intérêts de l'ennemi. Proche Christ là où il n'a pas été, annonce l'apôtre Paul, a dit « Et je me suis fait honneur d'amener l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit ceux à qui il n'avait point été annoncé, verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler, comprendront Romains 15, 20-21. Paul voulait prêcher Christ là où il n'avait pas encore été prêché. Il voulait aller dans les lieux où on n'avait pas encore entendu parler de lui. Il veillait attentivement à ne pas bâtir sur le fondement d'un autre. Lorsque nous faisons le projet de conquérir pour Dieu une ville, un pays, un continent ou ce monde, que chacun de nous ait à l'esprit qu'une partie du succès de Paul venait, page 154, de ce qu'il visait visiter en priorité les endroits où Christ n'avait pas encore été annoncé. Il y a des parties de Yaoundé, du Cameroun, de l'Afrique et du monde où Christ n'a pas encore été annoncé. Ces endroits constituent un défi particulier. Ils nécessitent un esprit profondément consacré. Il n'y aura pas de confort, n'y aura pas de sécurité, n'y aura pas beaucoup de nourriture, n'y aura pas beaucoup d'eau, y aura peut-être des gens primitifs. Mais les cœurs ont faim, ils languissent et attendent. Iras-tu vers eux? Les résultats seront peut-être lents, mais iras-tu vers eux? Diras-tu, Seigneur, je suis prêt à aller partout où tu choisiras, mais Seigneur, je serai plus heureux si tu m'envoyais là où Christ n'a pas encore été nommé? Lui diras-tu aussi, Seigneur, je ne veux pas bâtir sur le fondement d'un autre? Et le diras-tu, non par orgueil, mais par un profond désir d'amener les gens à voir celui dont on ne leur a jamais parlé avant? Si telle est ta motivation, que le Seigneur te bénisse. Qu'il exauce ta prière? Qu'il t'exauce bientôt. Rappelle-toi que l'endroit où Christ n'a pas encore été nommé pourrait être dans ta ville. Cela peut être une classe de gens de ta ville, une tribu dans ta ville ou un quartier dans cette ville. Cependant, cela peut être une autre ville ou un village de ton pays. Cela peut être une ville, un village hors de ton pays et même hors de ton continent. Je me rappelle très bien lorsque certains ont prié l'an dernier pour que Dieu les utilise en Chine. Ont-ils oublié? Dieu n'a pas oublié. Puisse Dieu libérer nos pensées pour voir toute sa moisson. Puisse-t-il nous libérer d'un nationalisme qui ne vient pas du Seigneur? Nous ne devons pas penser que notre nation est la seule dans le monde qui a besoin d'être évangélisée. Notre nation n'est pas la seule à abriter des pécheurs qui ont besoin d'être sauvés de la colère de Dieu qui va bientôt s'abattre sur le monde. Il y a des pécheurs partout. Page 155. Il y a des pêcheurs en France, en Grande-Bretagne, en Amérique, en Australie, en Algérie, au Soudan, en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Dieu attend que nous allions vers eux par la prière, par des dons en argent et par des dons en ouvriers. À moins que nous ne répondions à leurs cris et à leurs besoins désespérés, Dieu pourrait fermer ses oreilles à nos propres cris au sujet de notre pays. La Bible dit « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse » Proverbe 21:13. Nous devons répondre aux besoins d'autres pays et d'autres continents. Nous devons nous investir dans une profonde prière d'intercession pour eux. À partir de maintenant, nous devons envoyer le maximum d'argent pour leur évangélisation. Nous devons dès maintenant envoyer les meilleurs de nos croyants vers d'autres endroits, vers d'autres pays. N'est-il pas juste devant Dieu que nous envoyons vers d'autres pays, villes et villages nos meilleurs apôtres, nos meilleurs prophètes, nos meilleurs évangélistes, nos meilleurs pasteurs, nos meilleurs enseignants, ainsi que toutes sortes d'aides pour le chant, la prière, etc. N'avons-nous pas trop longtemps gardé les meilleurs pour nous-mêmes? Ne nous sommes-nous pas trop longtemps concentrés sur nos propres besoins? N'avons-nous pas fermé nos oreilles aux cris des pauvres pendant trop longtemps? Serait-ce la raison pour... Page 156. Laquelle le Seigneur ne nous répond pas plus qu'il ne le fait maintenant? À Yaoundé, capitale du Cameroun, dans certains quartiers, de nombreuses personnes ont reçu chacune 5 à 10 traités ou brochures d'évangélisation, alors que dans d'autres quartiers, il n'y a eu aucun témoignage évangélique puissant. L'Europe et l'Amérique ont besoin de prédicateurs originaires d'Afrique. J'ai lu l'histoire d'une femme qui priait sans cesse que Dieu puisse sauver son fils. Rien ne se passait. Puis un jour, le Seigneur lui dit « Tu ne t'intéresses qu'à ton fils. Tu ne t'intéresses pas au fils perdu des autres femmes. » Elle cessa donc de prier pour son fils et le Seigneur lui donna un fardeau de prière pour les fils perdus des autres femmes. Elle se mit à prier pour eux et, peu après, le Seigneur sauva son fils. Dieu n'a pas pensé à son propre intérêt. Il a sacrifié son intérêt et envoya son Fils unique afin qu'il vienne vers nous, et il est venu. Jésus est mort sur la croix pour tes intérêts et pour les miens. Il s'est livré lui-même pour les autres? Nous aussi, nous devons nous livrer nous-mêmes pour le salut des multitudes dans d'autres pays. Je répète que nos prières, nos dons et nos meilleurs serviteurs doivent être sacrifiés pour les autres territoires. Nos meilleurs serviteurs devraient y être envoyés pour prêcher, implanter des églises, édifier les croyants jusqu'à la maturité et, si nécessaire, mourir pour le salut de ces gens. S'ils meurent là-bas, nous devons immédiatement en envoyer d'autres pour les mêmes personnes jusqu'à ce qu'elles soient conquises pour Christ. Ce qui s'est passé à Yaoundé et à Douala avec les églises de maison doit aussi se passer dans les grandes villes du monde. Cela est déjà en train de se passer, mais qui va prendre le relais pour gagner d'autres âmes? Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je et qui ira pour nous? Y a-t-il des croyants qui diront: me voici, envoie-moi? Diras-tu: me voici, envoie-moi? Page 157. Entends-tu l'appel de Jésus? 1. 4. Entends-tu l'appel de Jésus? Si tu n'es pas sentinelle, qui ira œuvrer pour moi? Veillant sur le mur de Sion, les champs blancs, la moisson prête indiquant le chemin du ciel, qui est prêt pour moissonner? Offrant la vie et la paix, entends-tu l'appel du Maître? Par tes prières et tes offrandes, grande est la récompense. Tu peux satisfaire le ciel, qui dira de tout son cœur étant fidèle: comme Aaron, me voici, oui, envoie-moi. Soutient les mains du prophète. De si ce n'est au-delà des mers ou dans un pays lointain, près de toi se trouvent des païens, occupe-toi de ces gens-là. Si tu n'es pas millionnaire, comme la veuve, donne ton trésor. Le moins que tu fasses pour Jésus sera précieux à ses yeux. 5. Si dans l'assemblée des anciens tu ne peux pas enseigner, paie mes agneaux, dit le Seigneur. Nourris-les car ils ont faim. Et peut-être que les enfants que tu conduis en tremblant seront tes perles précieuses quand tu entreras au ciel. 3. Si tu ne sais pas bien parler ni prêcher comme un apôtre, parle de l'amour de Jésus. Dis-leur qu'il est mort pour tous. Si tu ne peux dire aux méchants de fuir la colère à venir, conduis les tout petits enfants entre les mains du Sauveur. 6. Que j'aime à Tunais, à dire: il n'y a rien que je puisse faire pendant que périssent les âmes et que le Maître t'appelle. Avec joie reçois la tâche, que son œuvre soit ton plaisir. Réponds vite, car il appelle: me voici, oui, envoie-moi. Page 158. Les aspects pratiques avant de commencer, avant d'envisager d'aller quelque part, afin d'être utilisé pour commencer une assemblée locale ou une autre œuvre de Dieu, je suggère que tu examines un certain nombre d'aspects pratiques. Le premier aspect concerne le mariage. Si tu es célibataire, tu as besoin que le Seigneur te dise clairement si une femme favorisera ou gênera tes intentions de conquérir cet endroit pour lui et d'être utilisée par lui pour bâtir son église dans ce lieu. Si une femme doit t'aider dans ton service, tu dois demander au Seigneur qu'il te montre celle qu'il t'a réservée et tu dois l'épouser. Si une femme doit être un obstacle pour ton service, ne te marie pas à cause d'une passion incontrôlée, tout en espérant que le Seigneur interviendra dans ta vie et opérera des miracles pour toi. Si tu préfères la chaleur et le réconfort d'une femme à l'accomplissement de la volonté de Dieu, alors tu as fait ton choix. Ne te marie pas si c'est pour le regretter plus tard. Cela ne t'aidera pas du tout. Les regrets ne changeront pas les choses. Dieu ne va pas intervenir pour changer ce qui résulte de ta détermination à ne pas t'engager entièrement sur le chemin de la croix. Le Seigneur Jésus a dit: car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Matthieu 19, 12. L'apôtre Paul dit: pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme page 159, ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui la fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. 1 Corinthiens 7, 25-38. Ce sont là des problèmes importants que doivent calmement examiner devant Dieu ceux qui ont l'intention de partir en son nom. Une fois prises devant Dieu leur décision au sujet du mariage, ils doivent maintenir fermement leur position. Le problème n'est pas d'avoir ou ne pas avoir de désir. Le problème, c'est d'arriver à contrôler les désirs. Le problème des désirs a été réglé à la croix. Le croyant s'est engagé à se charger quotidiennement de sa croix et à suivre le Seigneur, non seulement sur le chemin étroit du célibat, mais aussi sur le chemin que lui-même a foulé, celui d'une pureté incontestable dans le domaine sexuel. Ceux à qui le Seigneur a permis de se marier doivent régler avec lui la question d'avoir des enfants ou non, car plusieurs ont été forcés de quitter le front de la bataille pour rentrer à la maison, afin d'assurer l'éducation de leurs enfants. Dans ce domaine aussi, nous n'imposons rien à qui que ce soit. Nous demandons simplement aux croyants de régler les choses avec Dieu, d'atteindre la position de ceux qui ont abandonné leurs droits et de s'y tenir fermement pour la gloire de Dieu. Là où la croix a fait une œuvre, page 160, profonde, celui qui est crucifié abandonnera son droit d'avoir des enfants selon la chair pour avoir de nombreux enfants spirituels, ce qui satisfera le cœur de Dieu. Il y a un autre aspect pratique que tu dois régler avant de partir. Combien de temps vas-tu rester dans ton nouveau lieu? Si ton engagement est sérieux, tu ne suivras pas les traditions des gens mondains qui disent que tu dois partir pour 3 ou 4 ans, puis revenir pour 1 ou 2 ans et ensuite repartir. Tu dois partir sans aucun plan de retour, mais si le Seigneur veut que tu reviennes, il le fera à sa manière et en son temps. Tu dois avoir confiance au Seigneur pour qu'il pourvoie à tous tes besoins. Si tu penses qu'il ne peut pas pourvoir à tes besoins pratiques, comment pourras-tu mettre ta confiance en lui pour qu'il t'accorde des convertis et des croyants mûrs? Décide une fois pour toutes que tu ne seras pas le prisonnier d'un système financier quelconque, ni d'une organisation qui aura tendance à te contrôler, au lieu que ce soit toi qui dépendes du Seigneur de la moisson. Si tu penses que ton Dieu ne peut pas être fidèle, reste où tu es, ne pars pas, car tu vas échouer. Il y a d'autres aspects pratiques, mais le Seigneur t'aidera. Cherche à attacher à ton travail une équipe de personnes qui te soutiendront dans la prière victorieuse. Si tu as fait cela, tu auras agi sagement. Ceci est important. Dans le lieu de ton ministère, je voudrais te donner un conseil. Lorsque tu seras arrivé dans la ville ou le village que tu veux conquérir pour le Seigneur et où tu veux implanter une église, je te conseille avant toute chose de conquérir la ville dans le jeûne et la prière, avant même de commencer à rendre témoignage. Vois-tu, la bataille dans laquelle tu t'engageais a mené contre les principautés et les puissances du monde invisible. Si tu te consacres à 3 mois de jeûne et de prière, l'œuvre que tu vas accomplir avec les autres croyants de cette localité sera édifiée sur des fondations solides. Je suggère le programme suivant de 3 mois de jeûne et de prière. Un heureux semaine 5 jours de jeûne complet et 4 heures de prière. Deuxième semaine 4 jours de jeûne complet et 8 heures de prière. Page 161. Troisième semaine 3 jours de jeûne complet et 12 heures de prière. Quatrième semaine 2 jours de jeûne complet et 16 heures de prière. Cinquième semaine 1 jour de jeûne complet et 20 heures de prière. Sixième semaine pas de jeûne et 25 heures d'attente devant le Seigneur. Septième semaine 1 jour de jeûne complet et 20 heures de prière. Huitième semaine 2 jours de jeûne complet et 16 heures de prière. Neuvième semaine 3 jours de jeûne complet et 12 heures de prière. Dixième semaine, 4 jours de jeûne complet et 8 heures de prière. Onzième semaine, 5 jours de jeûne complet et 4 heures de prière. Douzième semaine, pas de jeûne et 25 heures de louange et d'action de grâce. À la fin de cette période, tu auras semé la confusion dans le royaume de l'ennemi et tu auras aussi montré au Seigneur que tu es engagé dans une affaire sérieuse. Quand une personne jeûne réellement, c'est comme si elle disait à Dieu « Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour coopérer avec toi. Il n'y a rien que je puisse faire et que je n'ai pas fait. J'attends désespérément de te voir agir. Seigneur, agis. » Dieu honore toujours ce genre d'engagement et il agit d'une manière puissante. Tu devrais aussi louer une maison pour y habiter. Elle ne devrait être ni trop pauvre ni trop luxueuse. Elle devrait être telle que les riches, comme les pauvres, puissent s'y rendre. Procure-toi quelques meubles. Tout doit être fait avec sobriété. Tu ne dois rien faire pour te faire connaître à la population par une large publicité. Commence à parler aux gens individuellement. Il est imprudent de commencer par une grande campagne d'évangélisation pour deux raisons. D'abord parce que tu seras incapable de t'occuper tout seul du fruit de la campagne. Ensuite, parce que tu auras annoncé ta présence au public avant même d'avoir mis sur pied un groupe de prière. Tout en rendant témoignage et en priant, veille à ce que ta vie prêche le même évangile que celui que tu annonces de tes lèvres. Tu peux commencer un petit groupe d'études bibliques dans ta maison, dans un but d'évangélisation. Distribue de bons traités évangéliques. Ne donne pas aux gens l'impression que tu es là pour représenter une organisation. Tu ne page 162 dois représenter aucune organisation. Tu dois représenter Jésus-Christ dont tu es l'ambassadeur. Si une personne se convertit à Jésus-Christ, tu dois la baptiser immédiatement. Tu n'as pas besoin d'une permission ou d'une autorisation de quiconque pour baptiser quelqu'un. Si tu peux conduire quelqu'un au Seigneur, tu es qualifié pour le baptiser. Il est plus difficile de conduire les gens à une repentance authentique envers Dieu et à la foi en Jésus-Christ que de les baptiser. Quiconque te dit que tu as besoin d'un titre spécial pour baptiser est un menteur. Ne l'écoute pas. Baptise la personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus lui-même l'a ordonné. Immédiatement après que la personne aura cru et sera baptisée, l'église locale est née dans ce lieu. Ce premier converti et toi constitue l'église de cette localité? Vous devez vous rencontrer régulièrement pour prier, adorer, rompre le pain et faire toutes les choses comme l'indique la Bible. Vous devez donner de l'argent au Seigneur? Vous devez commencer à gérer très sérieusement les finances de Dieu. La meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir un compte en banque. Quel nom donner à ce groupe? Vous constituez l'église du Seigneur dans cette localité? Vous êtes les frères dans ce lieu? Vous appartenez au Seigneur? Vous appartenez l'un à l'autre. Ne cherchez pas d'autres noms. Le Seigneur reconnaît les églises locales. Nous ne voyons rien d'autre dans la parole de Dieu. Certaines églises prennent des appellations utilisées autrefois et qui sont encore largement répandues. Mais de tels noms ne représentent pas la pensée de Dieu. Tous les croyants dans votre localité doivent appartenir à cette assemblée locale et tous doivent rompre le pain ensemble. Ils peuvent voir les choses différemment mais ils ne doivent pas se séparer. Ils peuvent avoir des points de vue différents concernant certaines choses dans la parole de Dieu, mais ils ne doivent pas se séparer. Certains pourraient être forts et d'autres faibles, mais les forts ne doivent pas se séparer des faibles. Certains pourraient être spirituels et d'autres charnels, mais ils doivent continuer ensemble en tant qu'église dans cette localité. Ce n'est pas la volonté de Dieu que dans une localité, il y ait un groupe de frères qui se fait appeler par un nom et un autre groupe qui se fait appeler par un. Page 163. Autre nom. Dieu ne connaît qu'une seule église par localité. Si des frères se rencontrent dans un lieu, se faisant appeler par un nom, et que d'autres se rencontrent dans un autre endroit, se faisant appeler par un autre nom, où est l'unité en Christ? Le Seigneur va-il se diviser pour être au milieu d'eux? Même si les vrais croyants ne s'entendent pas sur certains aspects, ils doivent continuer à se rencontrer. Pendant qu'ils se rencontrent, le Seigneur leur donnera la lumière. Les croyants doivent se séparer des non-croyants, mais les croyants ne doivent pas se séparer des croyants. Ne portez pas des noms qui symbolisent une vérité biblique, comme par exemple nouvelle naissance. Ne vous faites pas appeler l'église de ceux qui sont nés de nouveau. Jésus ne connaît aucune église de ce genre. Il connaît les églises locales de Mara, de Mancon, de Bafia, etc. Ne portez pas le nom d'une mission, comme mission du plein évangile, mission apostolique, mission baptiste, etc. Dieu n'a pas établi cela dans sa parole. Il a établi qu'il y ait l'église de Bala, l'église de Balmayo, l'église d'Ankouan, etc. Ne vous faites pas appeler par le nom d'un individu. Ne vous faites pas appeler les Wesleyens, les Luthériens, les disciples de Fomom, Sedonais, ou tout nom de ce genre. Le Seigneur Jésus peut reconnaître de tels serviteurs comme étant les siens, mais il n'a pas ordonné qu'ils aient des églises portant leur nom. À Corinthe, certains disaient « moi, je suis d'Apollo », d'autres disaient « moi, je suis de Pierre », et d'autres encore « moi, je suis de Paul », et d'autres « moi, je suis de Christ ». Il y avait quatre groupes. Mais l'apôtre dit que tous étaient charnels, y compris ceux qui préféraient s'identifier en disant « moi, je suis de Christ ». La question qui leur est posée est pertinente en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ? 1 Corinthiens 3, 3. Et encore Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? 1 Corinthiens 1, 13. Il y avait une seule façon par laquelle ils pouvaient se nommer. Ils étaient l'église à Corinthe, ni plus ni moins. Ils ne devaient pas se faire appeler l'église de Dieu à Corinthe, mais simplement page 164. L'église à Corinthe, car il n'y a pas d'église qui ne soit de Dieu. Dire que je suis de l'église de la vie profonde, ou de l'église du plein évangile, etc., c'est dire quelque chose qui n'est pas et qui ne sera jamais écrit dans la Bible. C'est exprimer ce qui n'est pas et ne sera jamais la pensée de Dieu. C'est agir hors de la volonté de Dieu. Dieu peut malgré tout bénir dans une certaine mesure, mais jamais la plénitude de la gloire du Seigneur ne se manifestera dans ce lieu. Quand on regarde à toutes ces divisions, cela signifie une chose, c'est que les gens ont été confrontés à une situation où il leur fallait mourir, mais ils ont refusé de mourir. Les morts ne se séparent pas les uns des autres. Les divisions résultent toujours d'une chair non crucifiée et sont provoquées par ceux qui veulent imposer leur manière de penser. De telles personnes veulent imposer la volonté de Dieu, selon leur façon de voir, et au moment qui leur convient, au lieu de laisser le Saint-Esprit accomplir la volonté de Christ, comme il le veut et quand il le veut. L'impatience est une marque de la chair non crucifiée. Parmi les questions d'ordre pratique, il y a aussi celle de l'enregistrement des organisations religieuses auprès des autorités gouvernementales. Accepter l'enregistrement, c'est accepter, pour l'assemblée locale, des dénominations et des structures qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. En réalité, l'Église ne peut être enregistrée sur terre et personne ne devrait tenter de l'enregistrer auprès d'un gouvernement quelconque, sous quelque condition que ce soit. L'Église est enregistrée au ciel et ne peut jamais être enregistrée autrement. Si le gouvernement exige l'enregistrement des organisations religieuses et demande aux chrétiens d'avoir des appellations ou des structures qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, les croyants, bien que respectant pleinement les autorités instituées et doivent obéir à Dieu. Quand ils obéissent à Dieu, ils doivent être prêts à se soumettre à la punition du gouvernement et, une fois punis, ils doivent recevoir la punition avec joie, sans se plaindre. Le gouvernement fait son devoir. Ainsi, il y aura toujours le choix entre, page 165, obéir à l'autorité politique, être en paix avec les hommes, faire des compromis avec la parole de Dieu et voir des portes apparemment s'ouvrir, ou obéir à la parole de Dieu, être persécuté et n'avoir à sa disposition que des portes ouvertes par Dieu. Voilà le choix, frère. C'est le choix entre dépendre entièrement du Seigneur et en porter les conséquences ou dépendre en partie du Seigneur et en partie des hommes. L'obéissance au Seigneur ne peut jamais être un frein à la progression de l'Évangile. La désobéissance peut occasionner d'apparentes ouvertures pour prêcher l'Évangile, mais cela ne poussera jamais Dieu à étendre sa main pour déverser la pleine mesure de sa puissance. Le Seigneur Jésus a demandé que ce qui est à César soit rendu à César et que ce qui est à Dieu soit rendu à Dieu. Il voulait dire que les deux domaines étaient séparés et distincts. Ils représentent deux royaumes violemment opposés qui ne peuvent jamais se réconcilier. C'est pure folie que tenter de réunir Dieu et César ou de faire des compromissions entre eux. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui ont conclu un mariage impur entre Dieu et César. Dieu s'y refuse. seuls ceux qui peuvent suivre le Seigneur en lui obéissant, qui refusent de se soumettre aux pressions politiques ou aux séductions religieuses, pourront être vainqueurs dans les jours mauvais. C'est là une parole très sérieuse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent. Nous avons dit que les églises ne doivent pas porter le nom d'un individu. Cependant, les ministères doivent porter le nom des individus ou des assemblées locales. Il y a aussi l'œuvre des assemblées locales. Il y a aussi l'œuvre et les ministères que Dieu donne aux individus. Ceci doit être clair. Paul parlait toujours de son ministère et il ne considérait pas cela comme une forme de publicité personnelle. Des hommes qui sont morts à eux-mêmes peuvent utiliser partout leur nom sans qu'ils aient le moindre désir de s'exalter ou de se glorifier eux-mêmes. Des noms tels que le ministère de la maison de l'Évangile, le ministère des traités ou encore le ministère, page 166, des cassettes, semblent indiquer qu'il existe des individus qui s'appellent maison de l'Évangile, traité ou cassette. Les ministères ne peuvent et ne doivent pas être nommés par des choses. Ils doivent porter le nom du serviteur auquel Dieu a donné le ministère. Cela donnera souvent l'impression qu'on élève un homme, mais Dieu connaît les secrets des cœurs et ces secrets seront bientôt dévoilés. Dieu seul donne un véritable ministère et, quand il le donne, il reconnaît le ministre et le ministère. Le ministre doit s'accepter lui-même et éviter la fausse modestie. Les bâtiments d'église de l'Ancien Testament nous parlent du magnifique temple construit par Salomon, temple éclatant de splendeur et de gloire, bâti pour le Seigneur. Pourtant, ce temple ne pouvait pas contenir le Seigneur. En effet, la Bible dit et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Acte 7, 47-50. Dieu avait permis qu'un temple matériel fût construit à l'époque de l'Ancien Testament. Puis il s'est débarrassé de ce système. Le croyant est aujourd'hui le temple du Seigneur? Le temple de l'Ancien Testament était une ombre dont Dieu s'est débarrassé lorsqu'il a remplacé le judaïsme par Christ. Aucun temple n'a été construit par les croyants à l'époque du Nouveau Testament. Nous ne voyons nulle part, dans le Nouveau Testament, que l'on parle de bâtiments construits par des croyants comme lieu de réunion. Le croyant est le temple de Dieu. La Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. » Et c'est ce que vous êtes dit, Corinthiens 3, 16-17. Si le croyant est le temple de Dieu, alors les croyants n'ont pas besoin de construire un temple pour le Seigneur? Les premiers lieux de réunion des croyants ont été construits à la fin du IIe siècle à un moment de rapide déclin de la puissance, page 167, spirituelle et de la consécration. C'était un pas en arrière. Quand l'Église était réellement vivante, les croyants investissaient leur temps, leur énergie et tout ce qu'ils avaient à atteindre les perdus, à édifier les jeunes croyants, et à aider les croyants à atteindre la maturité. Ces ministères ne se préoccupaient absolument pas des immeubles, des temples, des cathédrales et d'autres choses semblables. Dieu habitait dans le croyant par son esprit et les croyants se réunissaient dans les maisons. Nous lisons dans la Bible qu'il est parlé de l'église dans la maison d'Aquila et de Priscille 1 Corinthiens 16, 19, de l'église dans la maison de Nympha Colossiens 4, 15, etc. Il pourrait être nécessaire de louer des salles pour des événements particuliers, acte 19, 9-10, mais la construction de bâtiments imposants et grandioses doit être regardée avec méfiance. Il se peut que, dans certaines circonstances inhabituelles, le Seigneur permette la construction d'un bâtiment temporaire pour des réunions spéciales. Ceci devrait être vu comme l'exception plutôt que comme la règle. Et un tel bâtiment devrait être très simple et temporaire. C'est manquer complètement le but que d'élever un bâtiment avec une riche toiture, une architecture moderne et un éclat mondain. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, Hébreux 13, 14. Nous ne sommes pas assez fous pour élever un bâtiment qui revient à dire que nous avons une demeure ici-bas. Nous ne pouvons pas nous permettre d'élever des bâtiments qui reviennent à dire que nous sommes ici-bas pour longtemps. N'attendons-nous pas impatiemment le retour du Seigneur ? N'y a-t-il pas de possibilité que ce soit cette nuit même? Avons-nous perdu l'esprit d'Abraham? La Bible dit c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, et le constructeur Hébreux 11:9-10. Ici-bas, nous ne pouvons avoir que des tentes, des structures temporaires, car nous attendons une cité dont le Créateur est le... Page 168. Constructeur est Dieu. Frères, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas ici pour longtemps. Pouvons-nous nous permettre d'élever des bâtiments permanents ici-bas? Pour combien de temps? Prenons l'exemple de l'assemblée de Yaoundé. Nous n'avons pas encore investi 50 millions de francs faits dans l'évangélisation, les traités, les campagnes, l'implantation des églises, etc. Si nous décidions d'investir 100 millions ou 200 millions pour la construction d'un immeuble, nous ferions preuve de folie. Comment rendrons-nous compte pour de telles dépenses si le Seigneur venait juste au moment de l'achèvement des constructions? Où voyons-nous les apôtres construire un bâtiment dans le Nouveau Testament? N'est-ce pas quelque chose de mondain? Cela est-il bien un signe prouvant que nous voyons combien l'heure est avancée? Cela parle-t-il de l'urgence des temps que nous vivons? Quelqu'un dira peut-être qu'un beau bâtiment permettra aux riches et aux gens importants de notre société de venir écouter l'Évangile. C'est là une pensée folle. C'est une pensée mondaine? Pensons aux campagnes spéciales que nous avons eues au Centre culturel français pour la haute société de Yaoundé. Combien d'entre eux sont au milieu de nous à cause de ces campagnes? La personne qui a besoin qu'on lui prêche l'Évangile dans un super bâtiment n'a pas reçu la révélation de Christ. Nous ne pouvons pas stimuler l'orgueil des gens et leur esprit d'importance personnelle en espérant qu'ils seront amenés à la foi? Quelle campagne Jésus a-t-il menée dans des circonstances spéciales pour les riches et les nobles de son époque? Investissons maintenant dans la seule œuvre urgente, que ce soit destinée à la moisson, nos prières, notre argent et nous-mêmes. Concentrons-nous sur ce qui est urgent, car le Seigneur revient bientôt. Il est juste à la porte. Si tu vas quelque part implanter une église, ne te préoccupe pas des bâtiments. Utilise ta maison ou des salles louées. Investis toute ton énergie pour aller chercher des hommes. Bâtis des temples pour Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont été amenés à Jésus-Christ. Ce sont ceux-ci les véritables temples. Quand Jésus est parti au ciel, il n'a laissé aucun bâtiment ou immeuble derrière lui. Il a laissé des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie. Nous devons nous assurer que ce soit la seule chose que nous, page 169, laissions derrière nous. A-t-il déçu Dieu? Non. Il a dit au Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, Jean 17, 4. Puissions-nous aussi faire de même? Alors, quand le temps de notre départ sera venu, nous n'aurons aucun regret. La formation des disciples, le Seigneur avait demandé que les disciples aillent face des disciples. Il ne les a pas envoyés faire des convertis. Quelles sont les caractéristiques du disciple? Non seulement le disciple est prêt, mais il est réellement venu à Christ. En outre, et comme conséquence, il est son propre père, sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie. Jésus a dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple » Luc 14, 26. Passes-tu ce test avec succès? Sinon tu n'es pas son disciple, et tu ne peux pas faire des disciples. Non seulement le disciple est prêt, mais il porte réellement sa propre croix et suit Jésus. Jésus a dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple » Luc 14, 26. Passes-tu ce test avec succès? Sinon, tu n'es pas son disciple. Tu ne peux pas faire des disciples. Non seulement le disciple est prêt, mais il a réellement renoncé à tout ce qu'il possède. Jésus a dit ainsi donc, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple » Luc 14, 33. Passes-tu ce test avec succès? As-tu renoncé à tout en pratique? Le jeune homme riche a échoué à cet examen et s'en est allé à la ruine éternelle. Si tu as échoué à cette épreuve, tu ne peux pas être son disciple. Tu ne peux pas conduire les autres à être des disciples. Car comment peux-tu les conduire à quelque chose dans laquelle toi-même tu n'es pas prêt à entrer? Tu es disqualifié, non seulement le disciple est prêt, mais il porte effectivement beaucoup de fruits. Jésus a dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes. » Page 170. Disciple Jean 15, 8. Si tu ne portes pas beaucoup de fruits, tu ne peux pas prouver que tu es son disciple. Tu ne peux pas faire des disciples. Non seulement le disciple est prêt, mais il demeure effectivement dans la parole. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, 3132. Es-tu demeuré dans la parole de Jésus en l'étudiant, en obéissant à celle-ci et en l'enseignant aux autres? Sinon, tu n'es pas son disciple. Tu ne peux pas faire des disciples. La première responsabilité de quiconque, c'est de devenir un disciple. Ceux qui ne sont pas disciples n'ont aucun mandat pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Tout ce qu'ils essayent de faire se révélera à la fin comme ayant été fait pour Satan, car cela s'opposera à l'action du Seigneur. Cela est très sérieux. Tout ce qui est fait par quelqu'un qui n'a pas encore abandonné tout péché conscient dans sa vie n'est pas pour le Seigneur mais pour le diable. Si quelqu'un pratique encore consciemment le péché, il ne peut pas servir Dieu. Il sert le diable. Il n'a pas renoncé à son péché,